L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Perte de la biodiversité, sécheresse, baisse des rendements agricoles, érosion côtière, tous les voyants sont au rouge. Pourtant, à l'échelle mondiale, notre continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les questions liées à l'environnement sont devenues à la fois une urgence climatique et sociale. Alors, dans votre podcast Green Africa, nous allons essayer de mieux saisir les enjeux du changement climatique et entrevoir des solutions. We need to build a better future and we need to start right now. Nous devons construire un monde meilleur et c'est maintenant. Maintenant que nous devons agir. Et oui, nous chantons pour le climat, pour vous souhaiter la bienvenue dans ce deuxième numéro de Green Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de l'érosion côtière qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest. Dans la première partie de cette émission, nous ferons le point sur l'ampleur de ce phénomène au Sénégal. Nous serons aussi au Togo où l'organisation des jeunes engagés pour le développement durable mise sur la sensibilisation pour limiter la dégradation du littoral. Et puis dans la troisième partie de cette émission, nous donnerons la parole à Aminata Mbaïfal, notre éco-citoyenne qui sera en direct de Dakar. Sénégal, Sénégal, Sénégal. Feri bañu danan batala jola mi sok ci birge xale bi mi ngi joy nan bay bay ana sama yaay boy bay na ko dama na yaay boy. Face à l'assaut des vagues au Sénégal, ce sont des villages, des souvenirs qui sont engloutis par les eaux. L'érosion côtière y grignote plusieurs mètres par an. Malgré les efforts des autorités, le littoral se dégrade. Avec nous pour en parler, pour parler de ce phénomène, Dibril Nian, qui est le directeur exécutif de Jeunes Volontaires pour l'Environnement Section Sénégal. Dibril, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup et merci aux téléspectateurs de la Radio Métropole. Merci.
Alors, Dibril, vous êtes souvent sur le terrain, vous avez vu des maisons céder, des habitants se déplacer face à l'assaut des vagues. Quelle est aujourd'hui l'ampleur de l'érosion côtière au Sénégal?
Voilà, merci beaucoup, merci. Donc, au Sénégal, ici, comme vous le savez, donc, le Sénégal est un pays côtier qui a 750 km de côte. Donc, c'est toute la côte qui est menacée. Donc, il n'y a pas un endroit sur la côte qui n'est pas menacé par l'érosion côtière. Et comme vous le dites, nous vivons chaque jour ces problèmes de déplacement, ces problèmes de perte des terres, voilà, de perte des plages, de perte d'infrastructures sur cette plage, sur ce littoral-là. Mm-hmm. Et ça fait très mal. Mais nous essayons de lutter contre une force qui est immesurable, qui est très grande, mm-hmm. donc, qui est la mer et face au changement climatique. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'avancer très rapidement. Donc, déjà, nous avons des réfugiés climatiques au Sénégal issus de ce phénomène d'érosion côtière. Il y a beaucoup de villages qui ont disparu. Il y a beaucoup d'endroits qui ont disparu. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés au Sénégal, que ce soit au nord, que ce soit sur la petite côte, que ce soit à Casamance. Donc, le phénomène est là. Mmh. Il est visible par tous. Et voilà, donc, c'est ça.
Le phénomène est là, il est visible. Et selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène, justement?
Bon, écoutez, il y a plusieurs paramètres, mais le plus cité, c'est la montée des eaux, mmh. qui est due au changement, au phénomène lié au changement climatique, la fonte des glaces, l'avancée de la mer et tout ça. Maintenant, à côté, il y a d'autres phénomènes. Par exemple, aujourd'hui, dans certaines zones, il y a l'extraction de sable marin. Donc, dans d'autres zones, par exemple, il y a des barrières naturelles qui sont en train d'être coupées. Et tout ça, c'est l'action tout ça tourne autour de l'action de l'homme. Par exemple, ici, sur le littoral, sur la côte nord, sur le littoral, donc, on avait réussi quand même, il y a des années, à implanter une bande de Filao. Aujourd'hui, c'est cette bande de Filao qui est en train d'être détruite et le vent va attaquer directement et ça va créer de l'urgence. Donc, dans d'autres zones, par exemple, à Saint-Louis, donc c'est le phénomène est peut-être, il y a la main de il y a, il y a une forte main de l'humain parce
Saint-Louis,
que
c'est
la
l'une des
qualité
villes les plus touchées. On aura l'occasion d'y, voilà, d'en parler. Mais en tout cas,
voilà.
ce qui est sûr, c'est que là, vous dites que voilà, au-delà du phénomène du réchauffement climatique, il y a également l'action de l'homme dans l'érosion côtière.
Oui, il y a l'action de l'homme. Il y a l'action de l'homme. Aujourd'hui, il y a l'action directe de l'homme. Par exemple, quand on parle d'extraction de sable marin, par exemple, dans beaucoup de zones. Bon, c'est vrai que le phénomène est en train d'être interdit, donc il y a beaucoup de lois et tout ça, mais ça continue. Donc, quand on dit aussi que certaines bandes naturelles ont été aussi cédées, l'État a cédé ces bandes-là, donc ces bandes naturelles de Filao sont en train d'être coupées, ça, c'est l'action de l'homme. Quand on parle de creuser une presqu'île aujourd'hui à dépasser 4 mètres et qui est à plus de 4 km et qui est en train de détruire les habitats, ça, c'est l'action de l'homme direct. Maintenant, dans un autre contexte aussi, il y a les changements climatiques. Et voilà, les changements climatiques aussi, c'est l'action de l'homme, mais c'est un peu plus lointain. Mais directement, il y a ces actions-là qui sont là. Maintenant, toutes ces actions mises ensemble sont en train vraiment de détruire nos plages, de détruire nos zones côtières et voilà, de créer cette région-là dont on parle aujourd'hui au Sénégal.
Vous l'avez dit, les zones côtières souffrent énormément de ce phénomène. Quelles sont aujourd'hui les zones les plus touchées par l'avancée de la mer?
Bon, au fait, au Sénégal, l'ensemble des zones sont touchées. Maintenant, on peut classer ça par ordre de. Bon, je ne sais pas quel ordre il faut utiliser, par ordre de déplacé ou bien de destruction. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'au Sénégal, qu'on ait fait une étude pour dire que, par exemple, c'est par là ou par là qu'il y a le plus de dégâts. Mais quand même, la zone de Saint-Louis reste l'une des zones les plus touchées et la zone sud. Donc aujourd'hui aussi, on peut
La
dire
zone sud,
aussi
c'est
que
vers la
dans
Casamance, c'est ça.
la Casamance, oui. Mais il y a aussi la petite côte, malgré qu'il y ait des efforts qui ont été faits et tout ça. Donc il y a une bonne partie de la petite côte entre 2000 et maintenant qui ont disparu. Maintenant, il y a des travaux de récupération qui sont en train d'être faits. Mais que ce soit au nord, par exemple, ici, à Dakar même, vers la sortie de Dakar, dans le département de Rufisque, ils ont même construit une digue parce que la mer était tellement avancée
À
qu'ils ont
Tchaolen,
récupéré
c'est
des
ça?
kilomètres. À Tchaoulen, oui.
Voilà.
À Saint-Louis, il y a le village de Babadjé qui a été carrément éliminé de la carte. En Casamance, il y a le village de Djogé, le village de Caravane qui sont en train de disparaître. Donc aujourd'hui, le phénomène est vraiment éparpillé au Sénégal. Maintenant, par ordre de priorité, donc il y a la zone de Saint-Louis, il y a la petite côte, il y a la Casamance et toutes ces zones-là aujourd'hui sont très, très menacées.
Saint-Louis, vous l'avez dit, fait partie des villes les plus affectées par le phénomène de l'érosion côtière, notamment sur la partie nord de la zone urbanisée. Pourquoi, Djibril, cette situation est complexe dans cette ville autrefois appelée la Venise africaine?
Bon, en fait, la situation est complexe à Saint-Louis parce que, il y a eu des travaux qui ont été réalisés au niveau de Saint-Louis sans calcul, sans étude au préalable, ou bien les études ont été mal faites. Vous savez, Saint-Louis, donc, il y a la mer, il y a le fleuve et il y a l'île. En un moment, donc, il y avait la brèche naturelle et en un moment, l'île s'est inondée et il fallait essayer de sortir cette eau-là. C'est à ce moment-là que le gouvernement du Sénégal a décidé d'ouvrir une autre brèche pour essayer d'évacuer cette eau-là. Mais on ne peut pas lutter contre la mer. Quand on crée des infrastructures comme ça, il faut les calculer. La mer est trop puissante. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une brèche de 4 mètres pour libérer les eaux. Mais c'est cette brèche de 4 mètres-là aujourd'hui qui est devenue une brèche de plus de 4 km. Et c'est ça qui a causé tous les dégâts. Donc aujourd'hui,
Est-ce qu'il y a eu des études
cette affaire.
d'impact environnemental avant de, voilà, de faire construire avant d'ouvrir cette brèche?
Oui, ils ont présenté des études. Mais est-ce que ces études ont été bien? En tout cas, les scientifiques avaient alerté à l'époque pour dire que les études avaient été mal faites. Donc, il faudra qu'on reprenne ces études-là. Mais l'État s'est entêté parce qu'il y avait un problème qui était là. Les populations étaient en train de crier au désarroi, les inondations. Donc, l'État s'est empressé d'ouvrir cette brèche-là. Et c'est cette brèche-là qui est la cause de beaucoup de problèmes aujourd'hui, actuellement, à Saint-Louis. Donc, il y a même des villages qui ont disparu, comme le village de Doumbabadjé. Donc, c'est vrai qu'ils sont en train de récupérer, mais toutes les populations se sont déplacées. Donc, il y a Gandjo, il y a tous ces habitats qui ont été détruits à Saint-Louis à cause de la brèche qui a été creusée à Saint-Louis. Maintenant, c'est ce problème-là qu'il y a à Saint-Louis et c'est cette barrière naturelle-là, cette bande de sable qui était une barrière naturelle qui a été détruite. Et aujourd'hui, la mer vient directement sur les habitats. Et c'est
D'accord.
ça le problème de Saint-Louis. Le problème de Saint-Louis est beaucoup plus complexe que dans les autres régions parce qu'au-delà de l'action du climat, des changements climatiques et tout ça, il y a aussi la main de l'homme qui est venue pour vraiment créer un problème sans précédent et qui aujourd'hui cause tous les problèmes, tous les maux de Saint-Louis.
Et voilà, au niveau des autorités, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit pour faire face à ce phénomène?
Bon, je pense qu'il y a actuellement l'État du Sénégal à travers ses partenaires. Je pense que la dernière fois que le président Macron était venu ici, il s'est lui-même rendu à Saint-Louis.
Ouais.
Le Sénégal a fait un gros travail parce que le problème date de très longtemps. Donc, c'était depuis l'ancien régime. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que l'État, c'est une continuité quand le nouveau régime est venu. Donc, ils sont en train d'essayer de régler le problème. Mais jusque-là aussi, c'est des travaux d'ensablement, voilà, c'est des digues qu'ils veulent construire pour essayer de revenir à ça. Mais jusque-là, il n'y a pas encore il y a des solutions qui ont été dégagées, mais les réalisations, ça reste. Donc, il y a beaucoup de promesses, mais jusque-là, rien n'est fait. Et au-delà de ça aussi, beaucoup de populations ont été déplacées, que ce soit à Diankop, que ce soit à Harialla. Ces populations-là vivent dans des situations dramatiques et il faut essayer de les venir en aide. Donc, c'est le problème-là qui a causé d'autres problèmes, qui sont en train de causer d'autres problèmes. Et voilà. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution valable qui a été mise sur la table. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions, mais jusqu'à présent, il y a des solutions, mais ils n'ont pas encore démarré les travaux valablement. Donc, rien n'est encore fait sur le terrain, à part
D'accord.
juste des pierres qui sont en train de rembler certaines zones pour essayer de bloquer un peu les vagues et tout ça, mais il n'y a pas encore de concret, quoi.
D'accord. Très rapidement, Djibril, vous, au niveau de JVE au Sénégal, JVE, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une organisation panafricaine qui regroupe de jeunes volontaires pour l'environnement. Alors, dites-nous, comment vous vous organisez au niveau de JVE au Sénégal? Qu'est-ce que vous suggérez comme proposition sur le front de la lutte contre l'érosion côtière?
Bon, nous on pense d'abord qu'il faut valider les textes. Aujourd'hui, il y a une loi sur le littoral qu'il faut d'abord valider parce que l'occupation, il y a une occupation anarchique et ça aussi, ça n'aide pas. Donc voilà, il faut respecter tous ces règlements et toutes ces lois qu'il y a autour de ça. Donc nous sommes en train de porter le plaidoyer pour que cette loi-là soit validée. Il
D'accord.
y a aussi le Sénégal s'est doté de son CDN et dans ça, donc les régions côtières, je pense, peuvent faire partie des priorités. Donc on est en train de faire des efforts. Et nous, dans notre travail, nous essayons de porter le plaidoyer pour que l'État puisse prendre ses responsabilités et faire des actions pour ces populations-là qui vivent ces situations-là, mais
D'accord.
aussi essayer de sensibiliser les populations. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication et beaucoup de formation auprès des communautés locales pour
D'accord.
leur expliquer d'où vient le phénomène et quelles doivent être les stratégies qu'ils doivent mettre sur pied pour lutter contre ce phénomène-là. Par exemple, aujourd'hui au Sénégal, on a trois types de zones côtières. Il y a les zones rocheuses, il y a les zones avec les belles plages, le sable, mais il y a aussi les zones où il y a la mangrove. Et dans les zones où il y a la mangrove aujourd'hui, ce sont les populations elles-mêmes qui coupent la mangrove et qui occasionnent peut-être ces problèmes-là. Donc nous essayons de sensibiliser, nous essayons de communiquer et nous essayons de partager le peu que nous savons avec
D'accord.
ces populations-là pour qu'elles puissent s'approprier même cette gestion du littoral-là.
Djibril Niang, en tout cas, merci, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de JVO Sénégal. C'était la première partie de Green Africa. On marque une petite pause musicale avec l'auteur et interprète sénégalais Omar Penn qui nous parle de ses préoccupations et ses espoirs dans son album intitulé Climat Omar Penn que nous écoutons.
Klima Fonte balek Ngi tok di kha Solution mu jafé lo Si dunia Le réchauffement climatique Et ses conséquences Sécheresse Érosion côtière Disparition d'espèces Famine Pauvreté Maladie Exode Migration
Banyahin tamit tau balik. Omar Ben, un grand nom de la musique sénégalaise, un artiste très engagé sur la question climatique. Green Africa se poursuit et tout de suite place au Green Solution, la deuxième partie de votre émission consacrée aujourd'hui à l'érosion côtière, nous conduit au Togo. Le littoral togolais, long d'une cinquantaine de kilomètres, n'est pas épargné par le phénomène de l'érosion côtière. Et des voix se lèvent pour sensibiliser sur l'urgence d'agir. Et parmi ces voix, il y a celle de Kevin Ossa, l'une des figures togolaises de lutte contre ce phénomène. Il est à la tête de l'organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Kevin Ossa est avec nous en direct de Lomé. Bonjour Kevin et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation.
Alors Kevin, pourquoi avez-vous misé sur la sensibilisation pour faire face à, disons, à l'érosion côtière?
Alors, tout d'abord, il faut dire que la sensibilisation aujourd'hui, c'est un bon moyen pour les sans-voix de pouvoir, porter la voix des sans-voix parce que souvent, les populations riveraines de la plage n'ont pas souvent accès aux médias sociaux ou aux canaux de communication, télé, etc., que nous, on a. Moi, à la base, je suis activiste, donc j'utilise les réseaux sociaux ou les canaux de communication pour faire entendre ma voix. Et je suis issu de cette communauté-là qui subit, en fait, les conséquences de l'érosion côtière. Et donc, je ne peux pas voir ma communauté mourir ou survivre pour faire face à l'érosion côtière et que je ne porte pas vraiment sa voix. Donc, je pense tout simplement que c'est le fait de me sentir concerné par une cause noble, de porter la voix des sans-voix, de dire en fait ce qui doit être fait pour eux afin que ça puisse toucher les décideurs ou la communauté internationale tout entière.
Donc pour vous, il est hors de question de rester les bras croisés et de se taire. Dites-nous quelles sont les activités que vous organisez, que vous menez au juste au prix des personnes victimes de l'avancée de la mer au Togo?
Oui, vous l'avez si bien dit. Moi, j'ai fait les études en environnement, donc je comprends tout à fait ce qui se passe en matière d'érosion côtière. Mais pour ma grand-mère, qui n'est pas forcément partie à l'école, un matin, elle se voit sa case ravagée par la mer, mais elle ne peut pas comprendre le phénomène. Et donc, savoir cela et avoir aussi l'opportunité de hausser la voix et préférer se taire, je pense que c'est tout simplement être complice du phénomène. Et donc, nous, on en parle parce que on n'est pas lié, c'est-à-dire qu'on n'est pas fermé ou on ne fait pas partie d'un bord donné qui nous empêche de dire ce qui doit être dit. Et c'est ça aussi faire partie de la société civile. Et du coup, nos actions au sein de l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable sont beaucoup plus sur la question de la sensibilisation. Donc, on va dans les communautés, on organise des débats ou des dialogues, on discute avec eux sur les actions qu'ils doivent poser en tant que citoyens eux-mêmes d'abord, afin de ne pas exacerber les conséquences de l'érosion côtière, et aussi quelle est la situation aujourd'hui, qu'est-ce que notamment l'État devrait pouvoir faire pour eux et qu'ils ne font pas. Et en retour aussi, on essaie de faire du plaidoyer, parce que parfois, les autorités politiques, quand ils ne sont pas alertés ou quand ils ne sont pas saisis, oublient souvent ou ignorent un peu ce qui se passe à la base. Et donc, on fait un peu de reboisement aussi avec eux, sur les peu de galeries forestières ou les peu de couverts végétales qui restent encore au niveau local, on essaye avec eux de développer des actions de reboisement. Et voilà, on essaye de les assister quand ils sont affectés. Par contre, ça a besoin de moyens. On n'a pas du tout de moyens, nous, de notre côté, parce qu'on est encore une association de jeunes. Et vous savez, quand on dit jeunes, dans un pays comme le Togo, voilà, c'est pas beaucoup d'expérience. On est encore en train de se chercher aussi, mais on a quand même décidé de faire une cause noble, de s'engager auprès des communautés vulnérables parce que ça me touche à cœur, parce que on pense que c'est urgent, c'est important de le faire, vu qu'aujourd'hui on parle plus de changement climatique, mais très peu de personnes agissent. Mais voilà, donc c'est un peu ça principalement.
D'accord, ce sont les activités que vous menez pour sensibiliser aujourd'hui ces communautés. Qu'est-ce que vous leur dites au juste?
Je pense que le message, c'est ce message-là justement, de, dans un premier temps, de leur responsabilité en tant qu'humains vis-à-vis d'un phénomène qui se passe sous leurs yeux et qu'eux, à leur niveau, ils n'ont pas vraiment de moyens pour lutter contre. Donc, c'est déjà de situer les responsabilités parce que souvent, c'est des gens qui ne sont pas partis à l'école, donc ils ignorent complètement c'est quoi l'érosion côtière, comment ça se manifeste et par où justement l'homme intervient ou l'homme est responsable du phénomène. Donc, parce qu'il y a des jeunes, en fait, où il y a des personnes, en fait, qui essayent de défraire du sable dans la mer. Et vous savez, pour une plage, quand on enlève du sable, le temps pour l'eau ou les vagues de poursuivre rapidement ou de venir rapidement pour conquérir d'autres terres, c'est très court. Et donc, après ça, en fait, qu'est-ce que l'État peut faire ou l'État devrait pouvoir faire pour eux et que ça ne se fait pas, ils doivent aussi le savoir en tant que citoyens. Et après, vous savez, il y a des gens qui sont déjà affectés, qui ont pas du tout de morale. Donc, on essaye de conscientiser aussi ces gens-là ou de permettre à ce qu'il y ait une cohésion sociale, de permettre à ce qu'il y ait une acceptation vis-à-vis des uns et des autres, parce que c'est pas du tout évident de vivre avec quelqu'un qui est déprimé ou quelqu'un qui pense à sa vie, qui ne sait plus du tout ce qu'il en fera, ses enfants ne pourront plus aller à l'école, etc. Et donc voilà. Après, il y a la plupart aussi sont des communautés de pêcheurs et ils utilisent parce qu'il n'y a plus vraiment de poissons comme avant, du fait que il y a l'érosion côtière. Après, il y a d'autres cailloux ou d'autres roches qui sortent aussi de la mer. C'est un phénomène aussi complètement qu'on ne comprend pas. Et ça gâte en fait leur vie. Après, eux, ils sont obligés de rentrer sur le bord de la mer et de ramasser tous les espèces de poissons ainsi que les espèces protégées qu'ils trouvent. Donc, d'accord, on essaye aussi de les conscientiser sur ce volet-là, d'accord, afin qu'ils puissent utiliser des mailles de filet qui respectent un peu la norme au niveau mondial. Plus ou moins, hein, ce n'est pas du tout la meilleure qualité, mais de façon à conserver aussi la biodiversité parce que on en a toujours besoin. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres petites, par exemple les mangroves et tout ça, mais ils se sont pris sur les mangroves, ils ont tout saccagé. Donc nous, de notre côté, on essaie aussi de les conscientiser sur le fait de ne pas couper tous les mangroves. Mais après, on comprend, ils sont obligés un peu parce qu'il n'y a pas d'autres ressources alternatives aussi. Donc, c'est un peu ça.
D'accord, on le voit, donc vous misez aujourd'hui sur la sensibilisation pour faire face à ce phénomène de l'érosion côtière. Et qu'en est-il des retours que vous avez sur le terrain? Est-ce que vos actions portent réellement leurs fruits?
Voilà, merci beaucoup pour cette question. Et souvent quand on me pose la question de savoir qu'est-ce qui me motive ou qu'est-ce qui m'amène à faire... à lutter contre les changements climatiques malgré mon jeune âge et tout, je réponds souvent comme quoi, en fait, il est arrivé, moi je m'attache beaucoup plus à cette histoire-là du petit colibri. Il est arrivé, selon l'histoire, hein, dans une grande forêt, du feu, et puis tous les animaux étaient là, ils ne savaient pas vraiment quoi faire. Il y avait un petit oiseau du nom du colibri. Et le colibri, c'est un petit oiseau, en fait, dans la forêt. Et quand le feu s'abattait sur la forêt, le colibri est parti avec son bec prendre des petites gouttelettes d'eau qu'il venait mettre sur l'incendie. Et l'éléphant était là en train de rigoler, mais petit colibri, toi, tu penses que ton petit bec, là, ça peut vraiment fournir de l'eau pour éteindre le feu? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu comme quoi, bah, je fais ma part. Et du coup, je pense que c'est un peu ça. Il faudrait qu'on arrête de parler, que beaucoup de personnes arrêtent de juste contempler le phénomène ou de juste, je ne sais pas moi, de juste sympathiser, mais de vraiment agir. Et surtout, les dirigeants devraient être pragmatiques, devraient être plus ou moins pragmatiques et de prendre des décisions qui aident vraiment les populations à la base. Donc aujourd'hui, ce qui nous fait chaud à cœur, c'est qu'on a des communautés ou des populations au niveau rural qu'on visite et qui vont nous dire « Ah, tiens, c'est vous de l'ONG OGED, ah super, Entre-temps, vous étiez passé ici, vous avez aidé à reboiser des petits plantules. Ah voilà, aujourd'hui, ils sont devenus des arbres, on se repose là-dessus. Ça nous aide énormément. Et vous nous avez aussi aidé à ne pas couper les mangroves. Aujourd'hui, on en tire beaucoup de ressources, de poissons, etc. On a de l'ombrage, etc. Du coup, c'est ça, en fait, ce sont ces messages retour-là, en fait, qui
vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à continuer à mener ce combat. Dites-nous, Kevin, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour un impact plus conséquent sur le front de la riposte contre l'érosion côtière?
Alors, de notre côté, c'est les moyens. La limite, c'est les moyens. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de connaissances ou beaucoup de compétences et qu'il faut qu'on renforce aussi. Mais on a beaucoup, beaucoup besoin de moyens. On a beaucoup besoin d'appui financier, d'appui technique, d'appui matériel. On n'a pas vraiment de... Parce que nous, on va visiter des gens sinistrés ou des gens déjà déprimés. Quand nous, on vient les mains vides ou quand on vient, on fait des ateliers avec eux, du dialogue participatif, tout le temps, alors qu'ils ont des besoins qu'on n'arrive pas à combler. À un moment, ça nous fait nous-mêmes... parce qu'on veut les aider, mais on n'a pas les moyens, en fait. Donc aujourd'hui, le gros souci, c'est les moyens. Les moyens, pas vraiment pour notre bien-être à nous directement, mais pour la résilience, pour contribuer ou améliorer la résilience des communautés. Et aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde que beaucoup de moyens sont mis sur la table des États ou des acteurs étatiques, mais la lourdeur administrative et beaucoup de tracas font qu'ils n'arrivent vraiment pas à avoir de l'impact. Et après, il n'y a jamais personne, quand il s'agit de l'État, il n'y a jamais personne qui est indexé directement. Donc, je pense que beaucoup de partenaires techniques ou partenaires au développement devraient pouvoir faire l'effort aujourd'hui de financer directement la société civile et surtout les organisations de jeunes, parce qu'il y a très peu qui font confiance aux organisations de jeunes. D'accord. Parce qu'on se dit, ah oui, avec votre jeune âge et tout, il y a pas mal de projets sur des coûts de milliards, mais difficile de trouver des jeunes, des vrais jeunes. Je ne parle pas des vieux jeunes, mais des vrais jeunes qui sont dans des organisations assez structurées, assez professionnelles, qui font de leur mieux, qu'on peut appuyer pour avoir plus d'impact.
Mais en tout cas, c'est
un peu mon message. Voilà.
En tout cas, c'est déjà bien ce que vous faites. Voilà, vous écoutez ces personnes qui sont touchées par le phénomène. Vous portez également leur voix. Et ça, c'est très important. En tout cas, Kevin Ossa, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, mon très cher ami.
Merci, Kevin.
Et merci à tous les auditeurs et ceux qui nous ont écoutés.
Merci.
À bientôt.
Merci, ça a été un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans Green Africa. Kevin Ossa, qui mise sur la sensibilisation pour lutter contre le phénomène de l'érosion côtière dans son pays. Le Togo, c'est une voie verte. La parole est une arme sur le front de la lutte contre le réchauffement climatique, mais au-delà des mots aussi. Il l'a dit, il faut agir et revoir nos modes de consommation. Agir avec de petits gestes, c'est ce dont nous allons parler dans la troisième et dernière partie de Green Africa avec notre éco-citoyenne du jour. Elle s'appelle Aminata Mbaïfal et elle est en direct de Dakar, la capitale sénégalaise. Bonjour Aminata.
Bonjour Papa Cher. Tout d'abord, merci pour l'invitation.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce qui fait de vous une éco-citoyenne?
Eh bien, je dirais que je n'ai pas eu le choix. Dans un monde où le réchauffement climatique fait vaciller notre quotidien, ne pas s'engager au service du développement durable serait tout simplement faire offense à la raison. Alors, pour ne pas me culpabiliser, pour, disons, léguer un avenir radieux aux générations futures, j'ai décidé de calculer, de peser chacun de mes gestes et leurs conséquences sur la biodiversité. J'avoue que ce n'est pas simple, mais à force de s'y exercer, on s'y habitue et pour le bien-être de tous, on fait des efforts supplémentaires tous les jours.
Et quelles sont vos astuces pour apporter votre pierre à la préservation de la biodiversité?
Vous savez, moi, je suis au Sénégal. Le système de tri sélectif des déchets n'est pas totalement en vogue. Les autorités s'y attellent. De mon côté, je fais de mon mieux pour ne pas mélanger les déchets. J'essaie de mettre d'un côté tout ce qui est biodégradable et de l'autre tout ce qui ne l'est pas. Dans la maison aussi, je veille à ce que tous les chargeurs, les prises soient débranchées en cas de non-utilisation. J'éteins aussi systématiquement les lumières en sortant d'une pièce. Autre geste écolo que je fais souvent, je dégivre régulièrement le congélateur. Cela permet de réduire aussi ma consommation en électricité. La liste est longue. Elle est loin d'être exhaustive. Juste pour vous dire que ce n'est pas du tout facile d'être écolo. Il faut s'y mettre dès à présent.
Aminata Mbaïfal, merci, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà qui referme ce numéro de Green Africa. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement, en plus d'être une urgence climatique, elle est aussi une urgence sociale.